Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, aujourd'hui une interview avec Christophe Guetta. Interview que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5 ou alors sur le site de la radio à www.rdwa.fr. Christophe Guetta, bonjour.
Bonjour.
Alors Christophe, tu es ici pour nous parler d'une animation, d'animation au pluriel même, qui auront lieu au mois de février à la médiathèque d'Iwa Vercors. Donc ça liera entre conférences, spectacles, expositions et animations. Peux-tu nous dire sur quoi et précisément ?
Oui, alors la médiathèque nous a invités pour une quinzaine de jours à l'occasion du Nouvel An chinois. Puisque en tant que compagnie, nous faisons un pont entre la culture chinoise et le monde forain. Et là, c'est tout particulièrement autour de la dernière création de la compagnie qui s'appelle Les Oracles culinaires de Monsieur Hic, qui est un spectacle d'entresort forain conçu autour du Yi King. Alors, le détail de la programmation, c'est tout d'abord donc du 2 au 13 février où nous allons déployer tout le dispositif, le décor, l'installation sonore que nous avons construite pour cette création. Donc, on déploie le décor dans la salle d'exposition de la médiathèque. Donc, les personnes visiteuses, intéressées, peuvent venir voir. Et puis, je serai là pour les accueillir, parler du spectacle, parler du projet, parler de la création, parler du Yi King. On peut même faire des tirages, puisque le Yi King, c'est une pratique d'oracle chinoise. Et puis ensuite, le temps fort. Enfin, il y a plusieurs temps forts. D'abord, une conférence avec Pierre Faure, qui est un auteur avec qui on a travaillé autour du spectacle et qui est co-traducteur du Yi King, qui avait fait une traduction il y a une dizaine d'années et qui est également un spécialiste du Yi King, forcément. Et donc il fera une conférence le vendredi 5 février à 18h. Donc vous êtes conviés en tant que curieux. Et puis l'autre temps fort, c'est le samedi 6 février après-midi, donc entre 14h et 18h, où nous présenterons le spectacle, une adaptation intérieure du spectacle, puisqu'à l'origine, le spectacle est conçu pour jouer à l'extérieur. Mais là, c'est l'hiver, on se replie.
Saison oblige. Alors, tout ça, c'est chapeauté par l'éveilleur. Alors, l'éveilleur, Christophe, tu peux nous dire ce que c'est, cette compagnie ?
C'est une compagnie qui va fêter ses 22 ans. Qui est basé à Die depuis mon arrivée là il y a 7 ans, qui a oscillé entre le monde du théâtre en salle et puis qui après a joué beaucoup dans la rue. Et maintenant nous sommes dans une forme intermédiaire entre plutôt du théâtre forain. Et cette compagnie là pour l'instant se penche pas mal sur la culture chinoise, fait un pont entre notre culture occidentale et la culture chinoise. Autour du monde forain. Là, j'en suis le directeur actuellement. En fonction des projets, il y a différents acteurs. Là, le technicien, régisseur, constructeur, concepteur est un Diwa renommé, Laurent Gauthier, qui vit à Saint-Romand. Voilà. Et puis ma partenaire de jeu, qui est une comédienne de Montpellier, le musicien Jean-Christophe Camps, que j'accompagne aussi sur ses projets, donc qui est du monde acousmaticien, enfin de l'acousmatique, et Véronique Chant qui nous accompagne sur la scénographie, l'écriture.
Alors ce nom, l'éveilleur, pourquoi cette origine, de quelle origine vient-il ?
Ah. Ça, c'est une longue histoire. À l'origine, la compagnie, dont j'ai pas été à la création de cette compagnie, s'appelait compagnie L'Éveilleur. Et bizarrement, ce nom vient d'un des 64 hexagrammes du Yi King. Je m'en suis rendu compte après. C'est l'hexagramme 51 qui est l'ébranlement, l'éveilleur, le tonnerre sur le tonnerre. C'était un collectif de musiciens, de plasticiens, de comédiens, metteurs en scène qui avaient créé cette compagnie à Lyon. et donc avait fait un tirage du Viking pour trouver le nom. Ensuite, moi, j'ai été invité à rejoindre cette compagnie sur un projet de création. Et progressivement, les fondateurs sont partis sur d'autres projets. Et j'ai plus ou moins hérité de cette compagnie que j'ai quelque part voulu rebaptiser sans vraiment changer le nom. Donc, j'ai fait cette petite pirouette de mots de l'éveilleur. On est passé à l'éveilleur. Donc, l'éveilleur, à l'époque, on disait veiller sur le rêve possible. Voilà, et veiller comme un acte de vigilance, un acte attentif. Et ça, c'était le slogan, entre guillemets, de la compagnie. Ouais. Et la particularité maintenant, c'est qu'on travaille plus sur des mises en situation. L'écriture de la compagnie, c'est vraiment travailler sur des mises en situation, des mises en relation singulières entre le public et les acteurs, où on n'est pas dans un rapport frontal, on est dans un rapport non pas non plus participatif, mais vraiment impliquant du spectateur, qui devient un moment au cœur même du dispositif de jeu. Et c'est ce qu'on déploie à partir dans les oracles culinaires de Monsieur Hic, puisque les gens sont vraiment conviés à s'asseoir autour de la table de Monsieur Hic et à faire un tirage, leur propre tirage. Et ils deviennent vraiment acteurs, et pour aller plus loin, acteurs même de leur destin, puisque c'est le principe même du Yiking.
En introduction, je vois nouvel an chinois. Donc, comme ça, par anecdote, nous sommes en quelle année là pour 2016 ?
C'est l'année du singe, le singe de feu. Alors en astrologie, je suis pas très calé. Je suis allé voir un petit peu qu'est-ce que c'est le singe. Le singe, c'est le malin, c'est celui qui trouve toujours une solution pour s'en sortir. C'est celui qui vient aussi un peu tirer sur la queue du tigre pour l'agacer. Je crois aussi le singe dans la au niveau oriental, c'est aussi un peu l'intellect. Celui qui... il lui faut ses cacahuètes pour être content. C'est une année, alors je ne sais pas ce qu'elle augure, au-delà de ce qu'on a bien envie ce qu'elle devienne. Le feu, après singe de feu, alors le feu, c'est la lumière, c'est la lucidité dans le Yiking, mais ça peut être aussi l'aveuglement. C'est toujours cette recherche d'équilibre entre voir et être aveuglé, donc de bien mesurer s'il n'y a pas assez de lumière, on ne voit pas assez, mais s'il y en a trop, on ne voit pas non plus.
Alors avant de continuer sur la présentation de ces animations par l'éveilleur, je voudrais juste revenir, parce qu'on l'avait présenté à l'interview précédente pour la médiathèque, qu'est-ce que le Yiking en résumé ?
À l'origine, c'est une pratique de divination chinoise. Ça a donné naissance à un livre qui s'appelle donc Yi Qing, Yi changement, Yi ou mutation, transformation, et Qing, ou qui se prononce King maintenant, qui veut dire classique livre. Et donc, en fait, à partir de ces pratiques de divination, les Chinois de l'époque, les devins de Chang, ont classifié leurs oracles en 64 hexagrammes. Qu'on peut consulter. Donc ça donnait naissance à un livre et qui est un des livres fondateurs de la pensée chinoise. Donc en fait, le Yi Qing a été connu ensuite en Occident dans les années 1920 via un pasteur jésuite allemand qui a traduit ce livre, qui s'appelait Richard Wilhelm, et qui a eu ses belles années chez les hippies dans les années 70, qui interrogeait le Yi Qing pour prendre des décisions. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle traduction, enfin plusieurs, il y en a des dizaines de traductions, mais la traduction à partir de laquelle nous travaillons, la traduction de Pierre Faure, qui vraiment fait le pont entre la pensée chinoise et notre culture plus occidentale. Alors le Yi Qing, ça s'interroge au temps de l'action et ça se consulte au temps du repos. Alors on peut lire le Yi Qing comme un livre de sagesse, un livre de chevet, si on a envie, si on est sensible à cette pensée chinoise. Mais on peut aussi l'interroger si on a une question stratégique ou on ne comprend pas trop sa situation, si on a envie d'avoir un éclaircissement sur une problématique, eh bien on l'interroge en s'en remettant au hasard, en lançant des pièces et qu'on lance 6 fois et ça donne ce qu'on appelle un hexagramme, c'est-à-dire une superposition de 6 traits yin ou yang.
On va passer à Pierre Faure, qui est une sommité dans le Yiking.
En tous les cas, c'est un passionné, c'est certain. Ça fait 40 ans qu'il travaille sur le Yiking. Il parle le chinois ancien, enfin il le lit plus qu'il ne le parle. Il a fait une traduction qui est vraiment très claire. Cette traduction date de 12 ans. C'est le livre rouge que maintenant on trouve assez facilement et qui fait vraiment référence. Et j'ai eu la chance de le rencontrer puisque, voilà, quand j'ai voulu m'intéresser, je me suis penché un petit peu plus sur le Yi Qing. Je suis allé rencontrer Pierre Faure. Il a une petite maison là en Ardèche, au-dessus de Tournon, pour lui parler du projet, même le consulter, faire un tirage de Yi Qing pour savoir un petit peu ce qu'il en était du projet. Et puis, il a accepté qu'on travaille ensemble sur le projet. Moi, je le suis aussi. Il fait des formations. On se retrouve un groupe à Paris de temps en temps pour fouiller un petit peu le sujet, pour acquérir une forme de... une petite maîtrise du sujet. Et c'est un homme qui mérite d'être rencontré au-delà de sa connaissance du Yi Qing, qui est une façon très, très simple de faire passer son goût, sa passion pour cet objet, et qui vraiment est dans une démarche déjà psychologique du Yi Qing, puisque lui, il est de l'école jungienne, et puis une démarche vraiment très ouverte, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de vérité. Enfin, ça, c'est vraiment, ce qui est fabuleux dans le Yi Qing, c'est qu'il n'y a pas de dogme, il y a juste une proposition de voir les choses, et je trouve qu'il s'inscrit bien dans ce courant de consulter le Yi Qing comme on irait voir un ami, tout simplement.
Le Yi Qing, bon, c'est une pratique qui est un jeu en quelque sorte, ou voire plus. Et est-ce qu'elle est considérée au niveau d'un pouvoir, par exemple, quelconque, en tant que catalyseur?
Catalyseur, ah oui, on peut l'entendre comme ça, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vient interroger le Yi Qing, puisqu'on s'en remet au hasard, on s'en remet une part forcément inconsciente de nous-mêmes. Et plutôt que de voir toujours les choses sous le même angle, le fait de s'en remettre au hasard eh bien, connecte avec un champ de connaissances bien plus large. Ce qui fait que le hasard s'opère et offre un point de vue tout à fait particulier sur la situation. Un point de vue parmi 4096, puisque le Yi Qing comporte 4096 combinaisons.
Les personnes qui sont intéressées par le Yi Qing recherchent quoi par cette activité, par exemple?
Oh, je pense que ça dépend vraiment des gens. Hein. Ça dépend. On peut l'aborder d'une façon purement ludique. Et on peut l'aborder d'un point de vue vraiment philosophique, d'un point de vue psychologique. Moi, je pense que les gens qui s'intéressent au Yi Qing, déjà, ils sont sensibles à une pensée, la pensée chinoise, avec ce qu'elle a de particulier, de s'inscrire vraiment dans le présent, dans le flux, dans le mouvement du monde, avec cette attention à être en adéquation avec qui je suis et l'environnement dans lequel je vis. Donc je pense que c'est des gens qui sont sensibles déjà à ce courant de pensée, forcément. Qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui les amène à ça, il faudrait leur demander. Moi, ce qui m'a amené à ça, c'est forcément la culture chinoise, puisque ça fait 25 ans que je suis sensible à cette culture via d'autres pratiques. Et donc, ce qui m'y a amené, c'est forcément un moment où on va vers les textes. Hein, je suis tombé sur ce texte et j'ai trouvé ça assez fabuleux de pouvoir avoir des réponses à des questions juste en lançant des pièces, quoi. Alors après, j'ai des réponses qui ne sont pas toujours forcément celles que j'attends. Et ça m'intéresse, ça.
La carrière de Pierre Faure peut se résumer en quoi? Il a écrit beaucoup de livres, par exemple, sur ce sujet.
Alors pour écrire la traduction Yi Qing, il a co-écrit ça avec un autre homme qui s'appelle Cyril Javary. Ils ont mis 7 ans. 7 ans de travail pour sortir ce bouquin. Ensuite, il en écrit un autre, le Yi Qing par lui-même, chez un autre éditeur. Le premier étant chez Albin Michel. Lui, c'est chez Alphée, un éditeur qui n'existe plus d'ailleurs. Il a mis 3 ans. Et là, il est en train d'en travailler un nouveau, puisqu'il recherche toujours de perfectionnement pour d'une certaine façon, vulgariser le Yi Qing sans le trahir, ce qui est quand même un très vaste programme. Donc là, il est en phase d'écriture et ça fait, je crois, plusieurs années. Alors, c'est pas prolixe. Lui-même, à l'origine, est musicologue et musicien. Son écriture, c'est vraiment une écriture descriptive, une écriture aussi, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à observer la nature, puisque la pensée chinoise est issue de l'observation de la nature, justement de ce fameux environnement dont je parlais tout à l'heure. Donc je sais qu'il a passé, pour écrire son deuxième livre, il a passé beaucoup de temps à observer les éléments, puisque le Yiqing, c'est une superposition, un hexagramme plus particulièrement, c'est une superposition de ce qu'on appelle deux trigrammes, qui sont vraiment des éléments de la nature, comme le ciel, la terre, le feu, l'eau, le tonnerre, le lac, ou, qu'on appelle la brume aussi, le vent. Et donc il a observé ça, donc ça prend du temps, vraiment.
Et lui-même, s'est-il inspiré du Yiqing pour composer, si tu dis qu'il était musicien ou musicologue?
Sans doute, enfin, je pense qu'il n'a pas composé, c'est plutôt un interprète de flûte, mais sans doute que ça l'a influencé dans sa qualité d'interprétation.
Eh bien, on va passer ensuite aux oracles culinaires de Monsieur Yik. Alors Monsieur Yik, qui est-il?
Monsieur Yik, alors c'est un épicier, on va dire. Une forme d'alchimiste de l'âme qui s'est pris de passion pour le Yiqing, qui compose des épices en fonction, qui est vraiment très, des épices particuliers en fonction du tirage qui est fait. Et c'est quelqu'un qui accueille les gens chez lui pour tenter de les éclairer sur ce qu'ils sont en train de vivre. Voilà, c'est un personnage assez mystérieux, qui laisse un peu les choses en suspens, comme ça, qui aime le vide, qui aime l'espace vide, oui, entre soi et l'autre, qui maîtrise pas mal son sujet, mais qui en même temps n'a pas de vérité à divulguer. Voilà, c'est un forain aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de l'esbrouffe dans son rapport aux gens. Voilà, je crois qu'il aime foncièrement la nature humaine, mais n'a pas forcément confiance en elle.
Donc des oracles culinaires de Monsieur Yik sera abordé sur deux aspects. Donc en premier lieu, une exposition. Alors cette exposition, ça sera un dispositif que vous, Christophe Guetta, avez installé.
Oui.
Qui remémore un peu l'ambiance foraine, c'est ça?
Oui, bah c'est la baraque de Monsieur Yik, hein, qui est vraiment un entresort, c'est-à-dire une petite baraque foraine, avec à l'extérieur une cuisine. Donc c'est Angèle qui est un petit peu la chamane de la baraque de Monsieur Yik, qui prépare le bouillon. Donc ça prend l'aspect un peu d'une cuisine de bord de route. Bon, là en l'occurrence à la médiathèque, on sera plutôt à l'intérieur. Et puis derrière cette cuisine, il y a l'arrière-salle qui est là où on fait les tirages de Yiqing. Donc ça, en fait, c'est vraiment le décor original et originel du spectacle qui sera vraiment redéployé dans la médiathèque. Et puis, ce qui est particulier aussi, c'est le dispositif sonore. Ça a une importance quand même assez grande dans le spectacle. C'est-à-dire qu'on a aussi travaillé avec Jean-Christophe Camp sur la mise en son du Yiqing, en partant du principe, de l'interrogation de la question de qu'est-ce qui serait yin, qu'est-ce qui serait yang dans un son. Et donc, il y a tout un dispositif sonore dans la baraque de Monsieur Yik qui crée un bain sonore qui se déploie au fur et à mesure du tirage. Et donc, ça fait vraiment partie de l'atmosphère et du décor invisible des oracles.
Est-ce qu'on pourrait voir un lien entre le Yiqing et Tom Waits?
Oh. Ah oui. Oui, le premier lien, c'est que je les adore tous les deux. Tom Waits m'accompagne depuis tout le temps. Je l'écoute dans ma voiture, je l'écoute dans mon lit, je l'écoute. C'est comme un ami que je n'ai jamais rencontré. Et le lien avec le Yiqing, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement dans le présent et puis qui est très joueur, je pense aussi. C'est un joueur. Donc entre le Yiqing et Tom Waits, on pourrait dire qu'il est. C'est ce goût du jeu
et de l'inattendu aussi.
Tu nous proposerais peut-être un morceau alors à écouter ?
Oui, bah sur son fameuse...
Donc nous allons écouter un morceau de Tom Waits qui s'appelle...
Swordfish Trombone.
Et nous partons. Continuer cette présentation des oracles culinaires, il y aura aussi la partie spectacle, proprement dite.
Oui.
Qu'est-ce que ce sera, ce spectacle ? C'est le jeu du Viking, quelque part ?
Oui, bah, c'est déjà... Alors, c'est un spectacle pour 6 personnes. Donc les gens sont conviés par 6 à venir interroger le Viking. Ils sont accueillis par Paul, qui est déjà un petit peu l'homme à tout faire de la baraque de Monsieur Hick, qui peut-être tire les ficelles sans que personne s'en rende compte. Ensuite, il y a Angèle, la cuisinière, qui est là, qui prépare le bouillon, qui chante, qui invoque les esprits, qui connecte. C'est un peu la chamane, quoi, la chamane du Viking. Donc, qui met les gens en condition, qui les initie quelque part un petit peu à ce qu'ils vont vivre, et qui les met en tension dans le bon sens du terme. Puis, les gens sont invités à entrer dans la baraque de Monsieur Hick, qui est là, qui les attend pas vraiment, qui prépare ses épices. Voilà. Bon, je vais pas tout vous dire. Et puis, les 6 personnes sont conviées à s'asseoir autour de la table et à faire le tirage autour de cette soupe, puisque chacun rentre avec son petit bol de soupe. Voilà. Et à la fin, les gens ressortent de la baraque, tout chargés de ce tirage, qui est censé répondre ou non d'ailleurs à la question qu'ils sont posés avant d'entrer. Et puis après, ils partagent cette soupe. Ils partagent cette soupe et agrémentée des épices qu'a concocté M. Hick en fonction du tirage. Et là, c'est
Alors c'est une présence assez exceptionnelle de Pierre Faure qui reste le lendemain de sa conférence, alors qui fait pas vraiment, qui sera pas vraiment intégré au spectacle, mais qui se pourra être invité à la table où les gens partageront leur soupe pour un petit peu détailler le tirage qui aura été fait dans la baraque. Et ça, c'est assez exceptionnel, puisqu'il y aura quand même le grand spécialiste français du Viking qui sera là. Et puis aussi une présence exceptionnelle, c'est celle de Jean-Christophe Camps, le musicien, qui... Normalement, pendant le, enfin, jusqu'à maintenant, ces sons étaient enregistrés. Là, il nous fait l'honneur de se déplacer pour venir faire la composition musicale en direct et improviser à chaque tirage. Et ça, c'est aussi assez exceptionnel. Donc là, Adi, vraiment, ne ratez pas cette occasion le 6 février après-midi de 14 à 18 heures. Alors, ce sont des séances toutes les 30 minutes pour 6 personnes. Alors si vous avez possibilité de réserver auprès de la médiathèque, c'est bien. Sinon, écoutez, vous pouvez venir au dernier moment et puis le hasard faisant bien les choses, il se peut qu'il y ait une petite place libre.
Et entièrement gratuit.
Oh bah ça c'est à vous de voir hein, si vous voulez mettre la
Il y a possibilité de prix libre
Non, c'est gratuit, c'est tout à fait gratuit. Après, dans le monde forain, il y a toujours moyen de rafler 2-3 sous, mais ça c'est vraiment pour le fun. Non, c'est effectivement offert par la médiathèque qui nous invite à cette occasion. Oui.
Est-ce que les enfants sont intéressés par le Viking?
Par le Viking, oui, parce qu'il y a déjà la dimension de jeu. Après, ce que raconte le Viking, ça dépend de comment c'est raconté. Si c'est raconté d'une façon tendable par les enfants, oui, ça les intéresse. Après, dans le dispositif que nous avons déployé, il y a quelque chose de très ludique, très enfantin, très dynamique, qui fait que les enfants, ils s'accrochent. Ils s'accrochent complètement à la sensation. Il y a quelque chose qui est très physique dans ce qu'on propose, au-delà de l'intellect et du spirituel que véhicule le Viking. Il y a aussi, nous, on a prêté attention à cette dimension vraiment ludique, physique, puisque le physique aussi est interpellé par le ventre. Ils adorent la soupe. On fait une soupe. Alors à chaque fois, les parents disent « Mais d'habitude, tu ne manges pas de soupe. » Mais ils en reprennent 2 fois, 3 fois, 4 fois en général.
Je rappelle aux auditeurs que ces séances durent 30 minutes et qu'il serait souhaitable que les réservations soient faites aussi. Soit par le site internet de la médiathèque, soit par le téléphone, c'est le 04 75 22 22 32. Et le site internet est médiathèque.ladrome.fr/di. Christophe Guetta, est-ce que tu peux nous annoncer aussi d'autres événements ou d'autres choses à venir?
Au niveau de la compagnie.
Des veilleurs ou des toi veilleurs. En tant qu'artiste indépendant aussi?
De mon côté, alors je peux travailler dans le coin. Là, je vais partir en Suisse, par exemple, pour donner un stage, parce que je travaille par ailleurs avec des écoles de cirque ou des cirques, plus sur la partie clown. Ça, c'est mon monde un petit peu parallèle. Et puis, par ailleurs, je joue aussi depuis 10 ans le Manuel, le laveur de main, sur son vélo Vabo, qui est un colporteur de poésie et de sensations sensibles. Il y a des chances que je sorte un de ces jours sur le marché de Die. Je n'ai pas de date prévue pour l'instant, mais il sort un petit peu comme ça en fonction du temps.
Il y aura de l'eau chaude.
Il a de l'eau chaude. Il fait toujours marcher le petit panneau solaire qu'il a dans sa tête s'il fait frais. Parce que se laver les mains à l'eau froide en hiver, ce n'est pas génial. Après, on est sur un projet là au niveau de la compagnie, mais qui va sans doute se diffuser dans le Diois, mais on va commencer le travail à Saint-Étienne, dans un quartier qui s'appelle Mont-Réno, qui s'appelle Instant de Portrait. Alors c'est un projet vraiment basé sur la relation, sur la poétique de la relation, si chère à Édouard Glissant, qui m'inspire dans sa pensée de la relation comme forme... comme universel, comme il le définit lui-même, comme cette urgence d'aller vers l'autre malgré sa diversité. Et voilà, donc c'est un projet qui consiste à recueillir à inviter des gens, comme dans un studio de radio, comme on le ferait actuellement. Et puis, à partir d'un tirage de Viking, puisque tout se décline autour du Viking actuellement dans la compagnie, les gens tombent sur un hexagramme et là parlent d'eux et répondent à cette question « Qui suis-je maintenant ?». Cela va aboutir à un portrait sonore, puisqu'il y a la présence de Jean-Christophe Camps, qui fera en direct et en improvisation un portrait sonore. Les gens sont après amenés à se livrer à partir d'une interview sur « Qui suis-je maintenant ?», le tout un petit peu provoqué par la réponse du Viking. Et tout ça sera mis en boîte et en disque, diffusé dans un, et restitué sous la forme d'un jukebox de 64 portraits qui sera après placé dans des lieux de vie, qui pourra aussi être diffusé via Internet. Ça, c'est le projet qui est pour l'instant dans le chaudron des veilleurs et qui donc commence à Saint-Étienne. Et je pense que dans le Diwa, on va aller un petit peu solliciter certaines personnes pour, qui auraient envie de jouer le jeu.
À t'écouter, j'associe apparemment le Viking avec le chiffre. Les nombres arrivent, ce qu'on sait, dans le Viking.
Il n'y a pas vraiment de rapport à la numérologie. Il y a plutôt c'est un classement, mais alors ça, c'est très mystérieux dans le Viking parce qu'il y a eu plein d'ordres différents. Et moi je connais pas vraiment, je me suis pas penché là-dessus sur la symbolique des nombres dans le Viking. Je crois pas que c'est une importance tant, c'est plutôt un repère. Alors c'est 64, après 64 c'est 8 au carré, le 8. Voilà, apparemment c'est un chiffre qui a une forme de symbolique. Moi je suis pas très calé. C'est plus une façon de les mémoriser. Après, je sais qu'il y a des deux frères chinois qui sont penchés sur le Yiking et qui ont donné un sens à l'ordre de 1 à 64 et qui chaque fois ont écrit justement sur ce qui se passait entre le 1 et le 2, le 2 et le 3, voilà, qui sont penchés sur le rebond d'un chiffre à l'autre. Voilà. Alors, si vous voulez vous y intéresser, c'est la première traduction française d'ailleurs du Yiking faite par Philastre, mais je crois que c'était la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Après, vous pouvez me dire un chiffre et je dis un titre qui correspond. Voilà. Allez-y.
17.
Suivre. Alors suivre. Suivre le cours des choses, tout simplement. Suivre, c'est d'abord apprendre à marcher. Et en se tenant à la main de quelqu'un dont on a besoin pour marcher, puis petit à petit on lâche la main et à la fin on marche tout seul, suivre le cours des choses.
Et on n'est pas suivi.
Par son ombre. Mais ne nous précède-t-elle pas parfois ?
Eh bien Christophe Guetta, merci d'être venu à nos studios pour parler de cette animation autour des oracles culinaires de Monsieur Yik et particulièrement du Yiking.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Vous aussi.
Interview. 1 Terre View.
Okay. The bird.